Bonjour, vous écoutez À Propos, le podcast d'actualité du journal Le Soir. Tous les jours, c'est l'expertise de notre rédaction dans vos oreilles. Toutes les listes électorales ont été déposées. Sur 330, seules 112 sont menées par une femme. On analyse dans un instant. Mais d'abord, les tensions au Moyen-Orient pourraient-elles faire décoller le cours du pétrole? C'est ce qu'on va voir avec notre spécialiste énergie. Je m'appelle Pierre Fagnard. À propos, voici l'actualité, comme vous l'entendez.
Grand angle.
Les tensions entre Israël et l'Iran font planer l'ombre d'un embrasement au Moyen-Orient. Cette potentielle escalade serait évidemment désastreuse sur le plan humain, mais aussi sur le plan économique, puisque la région fournit environ 30% du pétrole mondial. Pour le moment, les marchés misent sur une accalmie entre les deux pays. Mais quelqu'un a-t-il intérêt à voir le prix du pétrole s'envoler? Qui et pourquoi? Julien Cambier a posé toutes ces questions à Bernard Padoan, journaliste au Pôle Planète.
Bonjour Bernard.
Bonjour Julien.
On se rappelle tous de la crise énergétique qui avait suivi le début de l'invasion en Ukraine. Est-ce que la guerre Israël-Hamas a eu un effet similaire sur le marché de l'énergie ?
Pas vraiment, hein. On sait que Israël n'est pas producteur de pétrole, donc voilà, le conflit en lui-même entre Israël et le Hamas n'a pas vraiment fait s'envoler les prix. On sait que quoi qu'il arrive dans cette région-là, qui est quand même la région, le Moyen-Orient, où on produit à peu près 30% du pétrole qu'on consomme dans le monde, tous les bruits de canon sont de nature à ajouter un peu de nervosité, mais fondamentalement, le conflit en lui-même n'a pas dopé les prix. Ce qui a dopé les prix, c'est un peu plus tard quand les rebelles yéménites houthis ont commencé à s'en prendre aux bateaux qui transitent par le sud de la mer Rouge, ce qu'on appelle le détroit de Bab el-Mandeb. Au nord, il y a le canal de Suez. Au sud, il y a ce détroit. Quand les rebelles houthis ont commencé à attaquer les navires marchands, en soutien à la population gazaoui. Mais là, ça a rendu les marchés plus nerveux et le pétrole a gagné à peu près 8-9% à cause de ces attaques, bien que ces attaques n'aient pas visé des tankers, hein, des pétroliers, mais des navires marchands classiques. Voilà, la nervosité était suffisante pour faire monter les prix à ce moment-là.
Et comment le cours du pétrole a réagi à l'attaque de l'Iran sur Israël et à la réplique non revendiquée qui a suivi?
Là, c'est un peu plus net comme augmentation. Les prix ont gagné environ 4% le lendemain de l'attaque de l'Iran sur Israël, hein, l'envoi des missiles et des drones. Là, c'est évidemment beaucoup plus évident puisque l'Iran est un gros joueur sur le marché pétrolier. Et là, on avait un conflit, une confrontation directe avec Israël. C'était une première d'ailleurs, parce qu'en général, l'Iran passait plutôt par des factions, des proxys comme on les appelle, notamment les Houthis dont on a parlé, qui sont des chiites soutenus par l'Iran. Et donc là, on a eu une véritable réaction du marché, un petit coup de chaud, mais qui encore une fois s'est calmé assez vite. Quand on a vu que voilà, Israël allait riposter à la riposte, mais de manière assez contenue, ça a permis au prix de refluer.
Pour le moment, pas de surréaction des marchés. Trois acteurs semblent avoir l'essentiel des cartes en main sur l'emballement ou non du cours du pétrole. Commençons par l'Iran, donc qui est le troisième producteur au sein de l'OPEP. De quel levier dispose la République islamique ?
Mais donc l'Iran est évidemment un producteur important, quoi qu'il se trouve pour l'instant sous régime de sanctions internationales. En 2015, on avait conclu un accord sur le nucléaire civil iranien. En 2018, les Américains se sont retirés de cet accord et ont réinstauré un régime de sanctions. Normalement, l'Iran ne peut pas exporter de pétrole. Mais voilà, l'embargo est un petit peu moins contrôlé que sous l'ère Trump. Hein, sous l'administration Biden, on a un peu relâché les cordes du contrôle. Et donc, l'Iran parvient quand même à exporter une partie du pétrole. Donc voilà, c'est du pétrole qui, s'il ne devait plus être sur le marché, provoquerait quand même un bouleversement. On parle de 1,6 million de barils jour. C'est à peu près la moitié de la production iranienne, 1,5% de la production mondiale. Donc ça, c'est le premier levier. Mais ils ont surtout un gros levier, c'est que l'Iran est riverain du détroit d'Ormuz. Le détroit d'Ormuz, c'est le couloir maritime entre le golfe Persique au nord et au sud, le golfe d'Oman, et donc l'ouverture vers l'océan Indien. Et donc, par là, transite environ 20% du pétrole mondial produit chaque jour. Pas seulement le pétrole iranien, mais surtout le pétrole saoudien, le pétrole koweïtien, le pétrole irakien, le pétrole qui vient des Émirats arabes unis. Et donc là, si un jour l'Iran devait décider de mener un blocus dans le détroit d'Ormuz, eh bien là, ça serait vraiment une crise majeure, puisque à peu près un cinquième de la production pétrolière ne pourrait plus irriguer la planète. Alors, il faut être de bon compte, l'Iran n'a pas menacé d'un tel blocus, il n'a pas menacé de bloquer le détroit d'Ormuz, mais c'est toujours une inquiétude, une épée de Damoclès qui pèse au-dessus des marchés, et dès qu'on est reparti dans un conflit armé, on se dit, qu'est-ce qui se passe si les Iraniens décident de bloquer Ormuz? Et si là, c'est le cas, il est clair que là, le baril va s'envoler.
Et pour quelle raison l'Iran se retiendrait de provoquer une escalade et donc un emballement des marchés?
Mais donc, comme je l'ai dit, l'Iran est sous embargo, donc ils parviennent à vendre une partie de leur pétrole, pas tout le pétrole qu'ils extraient chaque jour, mais ils ont évidemment besoin des devises que rapporte le pétrole. Le pétrole est payé en dollars, et avec ces devises, ils font fonctionner l'État iranien, et notamment, on sait que l'Iran a un programme nucléaire qui normalement n'est que civil, c'était ça l'objet de l'accord de 2015, mais on sait qu'ils ont d'autres intentions, ça coûte très cher évidemment à financer, et donc si escalade il devait y avoir, on sait qu'il pourrait y avoir une réplique immédiate des États-Unis, surtout si on bloque Ormuz, et il est évident que la flotte américaine va venir pour débloquer le détroit, ce serait une guerre ouverte, l'Iran ne pourrait plus exporter et donc perdrait une grande partie des devises qui lui permettent d'alimenter son budget. Ce qui explique aussi en partie la retenue pour l'instant apparente de Téhéran.
Alors le deuxième acteur, ce sont les États-Unis de Joe Biden. Depuis le début de la guerre à Gaza, ils font tout pour éviter un élargissement international du conflit. Quelles sont les motivations américaines derrière cet appel à la retenue dans la région?
Oui, donc clairement, les Américains font tout pour éviter la régionalisation du conflit. Hein, on l'a dit, Moyen-Orient très important pour le pétrole. Ils essayent de retenir les Israéliens. On sait que Joe Biden a parlé plus d'une fois à Benjamin Netanyahou. En fait, il y a sans doute une raison, on l'espère, de ne pas avoir envie d'une guerre et forcément des malheurs qui accompagnent une guerre. Puis il y a une raison qui est sans doute un peu plus terre à terre. Les Américains sont très sensibles au prix de l'essence. Hein, parce que les Américains sont des grands automobilistes. Et si jamais le conflit devait se généraliser au Moyen-Orient et si les prix du pétrole devaient s'envoler, le prix de l'essence s'envolerait aussi dans les stations-service américaines. Et ça, c'est jamais bon, surtout quand on est dans une année électorale. Un candidat, ici le candidat Biden, candidat à sa réélection face à Donald Trump, perdrait à coup sûr l'élection si jamais le pétrole devait s'envoler et donc les prix de l'essence devaient aussi s'envoler. Là, les électeurs américains ne lui pardonneraient sans doute pas. Et donc il y a c'est peut-être un peu terre à terre, mais je pense que ça fait partie de la réflexion aussi. L'Amérique n'a pas intérêt à voir s'envoler les prix du pétrole et donc les prix de l'essence. Ils sont un énorme consommateur de pétrole, ils sont très grands, le premier producteur de pétrole, mais aussi un énorme consommateur de pétrole. Et ça aurait aussi un impact sur l'économie américaine qui se porte plutôt bien, mieux que l'économie européenne.
On vient de parler de l'embargo qui pèse sur l'Iran et du fait qu'ils arrivent quand même à exporter du pétrole. Un pétrole dont le principal acheteur est la Chine. Si les États-Unis augmentent leurs sanctions contre l'Iran, c'est aussi prendre le risque d'attiser encore plus les tensions avec la Chine.
Oui, tout à fait. Donc les relations sont déjà tendues. On se souvient de l'épisode du ballon espion qui avait survolé les États-Unis, ballon espion chinois. Et donc on sait que les relations entre les deux, ce qui sont devenus les deux superpuissances mondiales, sont toujours tendues. Là, en l'espèce, il y a en plus un regain de tension sur le commerce mondial. L'administration Biden voudrait imposer des tarifs douaniers, multiplier les tarifs douaniers sur l'aluminium, sur l'acier. On sait que les Américains critiquent les subventions que les Chinois donnent, notamment à leur secteur de la mobilité électrique, hein, la production de voitures électriques. Et donc, il y a déjà pas mal de tensions. Si jamais on empêchait les Iraniens de vendre, d'exporter leur pétrole, même s'ils l'exportent un peu en black, hein, ils font des transbordements entre des tankers, ils coupent les transpondeurs quand ils rentrent dans les ports pour pas qu'on puisse les repérer. Donc, ils passent par la bande pour vendre leur pétrole et ils le vendent essentiellement aux Chinois. Et si les Chinois ne devaient plus avoir accès à ce pétrole, ils en feraient le reproche plus que probablement aux Américains, et surtout, ils risqueraient d'aller se servir ailleurs. Ailleurs, c'est où? C'est probablement chez les Russes. Et bon, ça, c'est pas vraiment mieux, parce que si les Chinois achètent davantage de pétrole aux Russes, c'est davantage de rentrées pour les Russes, rentrées qui vont servir à financer la guerre en Ukraine. On sait que les Américains sont du côté des Ukrainiens. Donc voilà, ils n'auraient pas intérêt non plus à ce que les Chinois se déportent des Iraniens vers les Russes, et ce qui aurait pour effet d'aider les Russes à mener la guerre en Ukraine.
L'Arabie Saoudite vient compléter ce trio. On le sait, Riyad et Téhéran ne s'entendent pas du tout. Mais est-ce que l'Arabie Saoudite a des raisons de souhaiter une guerre régionale impliquant l'Iran ?
Alors non, pas vraiment. Vous l'avez dit, hein, ils ne s'aiment pas. Quand on dit pas beaucoup, c'est un euphémisme. Ils ne s'aiment pas du tout. Néanmoins, voilà, même du côté de Riyad, même du côté de l'Arabie Saoudite, on n'a pas envie d'une guerre. Guerre qui, on le sait, ferait exploser les prix. Or, pour l'instant, l'Arabie Saoudite se satisfait d'un prix du baril, on est environ à 85-90 dollars. C'est suffisant pour le budget saoudien, suffisant pour financer les réformes que mène Mohamed Ben Salman, donc qui dirige de facto l'Arabie Saoudite. Donc voilà, ils sont satisfaits de cette situation. D'ailleurs, ils ont retenu une partie de leur production. Ça fait plusieurs mois, plusieurs années même, qu'il y a des coupes dans les quotas de production des membres de l'OPEP, de l'OPEP Plus, même avec la Russie, pour soutenir les cours, pour arriver à ces 80-90 dollars. C'est bon. Plus, ce serait visiblement, ce serait mauvais pour le commerce, parce que certes, on vend son pétrole plus cher, mais quand le pétrole est plus cher, les acheteurs, ils en achètent moins. Et donc voilà, ce que vous gagnez d'un côté, vous le perdez de l'autre. Vous le gagnez parce que vous vendez plus cher, mais vous perdez parce que vous vendez moins.
Et en cas d'escalade dans la région, est-ce que l'Arabie Saoudite dispose d'atouts pour compenser une éventuelle éjection totale ou partielle de l'Iran sur le marché du pétrole ?
Oui, donc, comme je l'ai dit, l'OPEP, dans son ensemble, garde environ 5 millions de barils jour sous terre. On ne les extrait pas, voilà, pour soutenir les prix. Sur ces 5 millions de barils, c'est environ la moitié est d'origine saoudienne. Voilà, si on se rappelle qu'on a dit les Iraniens exportent environ 1,6 million de barils, à eux seuls, les Saoudiens sont capables de compenser du pétrole iranien qui n'arriverait plus sur le marché. Et qui plus est, ils ont un petit avantage, c'est qu'ils ont notamment un grand pipeline qui traverse le pays d'est en ouest et qui leur permet de bypasser, de contourner le détroit d'Hormuz. On n'est pas encore dans cette situation-là, mais si un jour le détroit devait être fermé pour cause de blocus iranien, une partie du pétrole saoudien pourrait encore être exportée. En fait, le pétrole partirait d'Abqaïq, c'est le grand gisement pétrolier qui se trouve plutôt à l'est, près du golfe Persique, pourrait partir via ce pipeline vers le port de Yanbu, qui est sur la mer Rouge. Là, on est ouvert, on a passé le détroit d'Hormuz, on est tout à fait de l'autre côté de la péninsule. Voilà, ça leur fait un petit atout dans leur manche. Mais bon, 7 millions de barils jour, par rapport aux 20 millions qui transitent par le détroit d'Hormuz, c'est une petite solution, mais ça ne résoudrait pas toute la crise.
Merci Bernard.
Je vous en prie.
Les partis politiques ont officiellement déposé leur liste électorale dans la perspective du scrutin du 9 juin prochain. 330 têtes de liste ont été déposées et si on analyse ces listes, on peut tirer plusieurs constats, notamment en ce qui concerne la parité des têtes de liste. Xavier Kounas, chef du pôle enquête, développe avec Camille Terlinden.
Bonjour Xavier.
Bonjour Camille.
330 listes ont été déposées pour les élections européennes fédérales et régionales. Seul un tiers d'entre elles contiennent des femmes en tête de rang. Comment expliquer ce pourcentage ? Cela a-t-il toujours été le cas historiquement ?
Donc on voit que les partis ont toujours un peu de mal à mettre des femmes en tête de liste, hein, qui est quand même une place de choix. D'abord parce qu'on a plus de visibilité et puis surtout parce qu'on profite de ce qu'on appelle le vote en casse de tête ou le pot commun, qui fait qu'on est plus facilement élu quand on est en numéro 1. Donc on pourrait s'attendre, vu que la plupart des partis démocratiques défendent évidemment plus de parité, d'égalité entre hommes et femmes, à retrouver grosso modo, quand on fait l'analyse de l'ensemble des listes, bien autant d'hommes que de femmes en tête de liste. C'est pas le cas. Le soir a fait le compte, hein, sur ces 330 listes qui ont été déposées, eh bien on a trouvé 112 femmes, donc ça veut dire grosso modo un tiers. C'est peu, alors si on doit trouver un léger motif de réjouissance, c'est un tout petit peu mieux que ce qui s'est fait en 2019 pour le même type de scrutin, avec à peu près un nombre de listes similaires. Là, on était à un petit 31%, on est passé à 33,9. Voilà, certains jugeront une légère progression. Je pense surtout qu'on peut dire, sans trop se mouiller, que ça reste relativement anormal d'avoir un nombre, un déséquilibre aussi grand entre tête de liste hommes et femmes, voilà, dans une élection qui concerne l'ensemble du peuple. Et quand on sait, je pense, que les femmes sont plus nombreuses en Belgique que les hommes, on devrait retrouver cela dans les têtes de liste. C'est malheureusement pas le cas. Les partis ont peut-être encore un peu de travail à faire pour promouvoir les femmes aux meilleures places de leur liste.
Si on compare chaque parti individuellement, qui sont les meilleurs et les mauvais élèves ?
Alors on remarque qu'en Flandre, cette notion d'équité, d'égalité homme-femme, de parité semble plus respectée. Mention spéciale au parti Vooruit, donc les socialistes flamands, qui sur 13 listes déposées ont 8 femmes tête de liste contre seulement 5 hommes. C'est le seul parti qui a un déséquilibre, on va dire, positif pour les femmes. Derrière, notons quand même qu'il y a quelques partis, le nombre de listes étant impair, on ne sait jamais avoir l'égalité parfaite entre hommes et femmes, mais le CD&V, les Verts, d'ailleurs francophones comme néerlandophones, et l'Open VLD ont quasi une égalité homme-femme en tête de liste, donc on a l'impression que pour ces partis-là, il y a eu une vraie volonté de miser sur un équilibre global dans la composition de l'ensemble de leur liste. Par contre, en bas de tableau, il y a des vrais mauvais élèves. Côté francophone, surtout le parti DFI a 3 têtes de liste féminines seulement sur 19 listes déposées, donc c'est très très faible. Les engagés font à peine mieux, malgré le renouveau dont ils parlent, 4 têtes de liste féminines sur 19 listes également. Et puis on voit aussi que tous les partis de droite, voire d'extrême droite, ont des difficultés à mettre les femmes en avant. Le Vlaams Belang, par exemple, c'est aussi seulement 3 femmes sur 14 listes déposées. Et le parti d'extrême droite francophone, hein, méconnu, un tout petit parti chez nous qui dépose 12 listes, a quand même réussi à faire l'exploit à ne pas mettre une seule femme à la tête de ces listes. Donc 12 hommes sur 12 listes, un strike.
Dans ces listes, y a-t-il principalement des habitués ou avez-vous remarqué beaucoup de nouveaux candidats ?
Donc c'est un vrai casse-tête, hein, la composition des listes, et on a essayé de regarder à ce stade seulement ces fameuses têtes de liste, donc les numéros 1 ou les numéros 1. On remarque que 55% des gens étaient déjà têtes de liste lors du scrutin de 2019. Donc on peut dire que dans la majeure partie des cas, la tête de liste était déjà tête de liste la dernière fois, donc ce sont plutôt des habitués qui continuent à porter les couleurs de leur parti, à tirer les rangs. Ce qui n'est pas complètement anormal. Un parti, évidemment, mise quand même sur la notoriété des figures politiques, sur les candidats sortants pour pousser les listes et faire des voix. Donc on voit évidemment cela. C'est plus marqué par exemple chez le Parti Socialiste où 13 des 19 listes sont portées par des gens qui portaient déjà la liste en 2019. À l'inverse, on voit ici un ou deux partis qui ont vraiment misé sur du 109, à commencer par DFI. De mémoire, 9 de leurs 19 listes sont portées par des gens qui n'étaient pas sur les listes en 2019, donc par des nouveaux candidats. On a essayé d'un peu voir qui c'était leur profil. C'est pas du tout des rockstars ou des super candidats médiatiques, mais ils ont été cherchés sur chacune de leurs circonscriptions des gens du sang frais pour porter les listes la moitié du temps. Faut aussi dire que DFI a eu beaucoup de mal à composer ses listes, donc ceci explique peut-être cela. Et puis les engagés, hein, ont fait un lifting un peu du nom de leur parti, de leurs valeurs aussi, et ont décidé de miser sur des lapins blancs, comme on appelle ça parfois dans le jargon médiatique. Mais donc eux ont été chercher des nouvelles têtes qui n'étaient pas membres du parti et les ont propulsés directement en tête de liste. On peut penser à Jean-Jacques Cloquet, l'ancien patron de l'aéroport de Charleroi, l'ancien recteur de l'université de Louvain aussi, qui portera une liste des engagés. Il y a l'épidémiologiste Yves Copiters, dont on a beaucoup parlé pendant le Covid. Donc ils ont été chercher des gens, bon, on l'a dit, beaucoup d'hommes, pour porter ces listes, et donc il y a des nouveaux venus en tête des listes CDH. Mais sinon, grosso modo, il faut quand même noter que la plupart des autres partis, surtout les partis traditionnels, misent sur des valeurs sûres, des politiciens ou des politiciennes aguerris qui continuent donc à tirer les listes et à porter fièrement les couleurs de leur parti.
Concernant les plus petits partis, n'ayant actuellement aucun siège à la Chambre, certains ont-ils des chances de s'imposer cette fois-ci dans le paysage politique belge ?
Mais donc il y a quelques petits partis, hein, qui ont essayé de se faire une place. C'est toujours très très compliqué en Belgique. Il y a déjà cette notion de seuil électoral, donc il faut 5% réussir à passer la barre des 5% de vote pour le parti pour espérer avoir un siège, ce qui est loin d'être simple. On avait eu des surprises à Bruxelles lors de l'élection de 2019 au Parlement bruxellois, où deux petits partis, Agora et Dire Animal, qui prennent la protection des espèces animales, avaient chacun pu obtenir un siège. Et d'autres partis à l'époque, hein, je refais un peu d'histoire, mais les listes de Citex, le Parti Populaire dont on avait beaucoup parlé, qui avait quand même eu une large couverture aussi pendant la campagne, n'avait pas réussi à dégoter le moindre siège. Ici, il y a un peu moins de listes au total, donc un peu moins de petits partis. Certains vraiment mouvements très anecdotiques dans une circonscription ou l'autre qui vont essayer de glaner quelques voix, mais dont les chances d'obtenir un siège sont quand même assez faibles. On peut juste noter que Els Amp, l'ancienne candidate de l'Open VLD, ancienne libérale flamande, donc qui a décidé de claquer la porte de son parti en 2023, a elle réussi à créer un mouvement avec plus de 300 candidats, je pense. Elle est présente en Flandre, que ce soit pour l'élection du Parlement flamand et de la Chambre, sur toutes les listes, sur toutes les circonscriptions. Et donc, en tout cas, elle a réussi à dégainer une armada de candidats assez impressionnant. Faudra voir si ça paye, évidemment, dans les urnes. Et on en a parlé il y a quelques instants. Côté francophone, il y a ce parti d'extrême droite, donc chez nous, qui a déposé quand même 12 listes, donc qui va essayer de se faire une petite place. Ça va quand même être, à mon avis, compliqué pour eux, hein, soyons clairs.
On connaît depuis peu les listes définitives. L'administration belge en a écarté plusieurs. Quelles sont les principales raisons de ces refus ?
Oui, alors il y a plein de raisons qui font qu'une liste, une fois qu'elle a été déposée, donc c'est 330 listes provisoires, ont été vraiment scrutées. Il y avait plein de petites coquilles, les parties parfois dans le prénom ou le nom d'un candidat, parfois parce qu'il était renseigné sous le sexe linguistique francophone alors que sa carte d'identité était en néerlandais, il fallait régulariser. Donc une série de choses ont été régularisées. Mais maintenant que les listes sont définitivement clôturées, il y a quand même 9 listes qui ont été définitivement remballées, principalement de tout petits partis. Par exemple, d'Iranie qui pour tout le volet bruxellois et francophone n'aura pas de liste, c'est-à-dire que eux qui avaient un siège au Parlement bruxellois sont sûrs de ne plus l'avoir vu que leur liste a été définitivement recalée. Quelques micro-partis aussi ou candidats peut-être un peu farfelus qui avaient essayé de déposer une liste se sont fait éjecter. Ce que le ministère de l'Intérieur nous explique comme motivation principale, c'est parfois qu'ils avaient des candidats sur leur liste qui étaient déchus de leurs droits civiques et donc qui n'avaient pas le droit évidemment de se présenter. Certains partis n'avaient pas non plus respecté soit le principe de la tirette alternance homme-homme-femme ou un équilibre global de genre sur la liste. Et puis il y avait aussi certains ont été combattre jusque devant la justice pour essayer de montrer qu'ils avaient le nombre de signatures suffisantes. Les petits partis doivent aller chercher des signatures pour avoir le droit de se présenter, là où les partis qui avaient déjà un siège peuvent s'économiser cette tâche. Et donc il y en a qui sont juste pas parvenus et qui sont définitivement éliminés avant même d'avoir pu aller au combat, quoi, jusqu'au 9 juin. Bref, il reste 321 listes et de quoi je pense largement faire son choix pour l'électeur d'ici le scrutin.
Merci Xavier.
Merci.
À propos, c'est fini pour aujourd'hui, mais on revient demain matin. Merci de votre écoute. Si vous en voulez encore, tous nos podcasts sont disponibles dans l'application du soir. Rendez-vous dans le store de votre smartphone ou de votre tablette pour la télécharger. À demain.